Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Lundi 17 novembre 2025, il est 6h avant minuit. Merci d'écouter l'émission d'information locale de Syllab. Syllab qui vous offre une place pour le spectacle An Immigrant Story de Vanjiru Kamuyu. Le spectacle a lieu le mercredi 3 décembre prochain à 19h au Triangle, la cité de la danse rennaise, en duo avec une danseuse interprète en LSF, langue des signes française. La chorégraphe se fait messagère d'une histoire de l'humanité. Leur mission dansante, révéler des frontières et les faire tomber. Artiste associé CCN de Nantes, Vanjiru Kamuyu mêle danse, théâtre et chant pour évoquer son propre parcours migratoire, mais aussi le récit d'autres personnes. Pour jouer et pour gagner, vous avez besoin d'un mot de passe LSF comme langue des signes française. Rendez-vous sur c-lab.fr pour entrer le bon mot de passe et être tiré au sort. Tout de suite, le flash de l'Afghan.
35 ans après la dictature, le fantôme de Pinochet plane au-dessus du Chili. Hier s'est tenu le premier tour des présidentielles chiliennes. En tête, la communiste Jeannette Jara avec 26,71% des suffrages. Elle est suivie de près par le candidat d'extrême droite José Antonio Kast qui recueille 24,12% des votes. Un séisme pour le Chili qui n'a pas vu la droite radicale au pouvoir depuis 1990, soit la fin de sa dictature. Fils d'un soldat de la Wehrmacht et adorateur de Pinochet, Kast a fait de l'immigration son ennemi numéro 1. Expulsion du pays, travail avec la méga-prison du Salvador, construction d'un mur aux frontières, déploiement de l'armée. Comme de nombreux pays d'Amérique latine, Kast s'aligne sur la politique de Trump. Pour le Chili, aucun doute, Kast remportera le second tour le 14 décembre. Une situation apaisée mais des tensions encore fortes à Gaza. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU doit trancher. Faut-il soutenir le plan Trump pour la paix à Gaza ? Depuis le 10 octobre, il avait permis un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas. Le texte sera donc étudié avec la possibilité de reconnaître un État palestinien muni de sa propre police. Une solution qu'Israël rejette fermement, évoquant l'usage de la force. Hier, le Premier ministre Netanyahou l'affirmait encore, aucun territoire pour un État palestinien. Côté international, la Russie soutient que le plan Trump ne va pas assez loin sur la reconnaissance d'une Palestine libre. L'Allemagne, elle, a annoncé la fin de son embargo sur l'exportation d'armes vers Israël. Une situation très floue pour les pays de l'ONU qui donneront leur réponse à 23h, heure parisienne. Un accord historique, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Le président était attendu ce matin sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay dans les Yvelines. À l'ordre du jour, la signature avec Emmanuel Macron d'un partenariat militaire pour renforcer l'armement aérien de l'Ukraine. Face à une invasion russe qui a encore frappé la nuit dernière, Roman revient sur cette rencontre.
Un achat de 100 avions Rafale, l'Ukraine vient de passer une commande pour équiper son armée. Le président français a déclaré, je cite, « La Russie ne doit pas croire qu'elle peut miser sur la fatigue des Européens. Nous sommes prêts à continuer à aider l'Ukraine à résister. » Cet après-midi, le président ukrainien a rencontré des industriels et a participé à un forum franco-ukrainien sur les drones.
Et que contient exactement cet accord ?
D'après les éléments communiqués par l'Élysée aujourd'hui, le contrat comprendrait donc une centaine de rafales avec leurs armements associés, mais aussi un système de défense solaire de nouvelle génération, des drones et des nouveaux lots de bombes, et puis la livraison de 55 locomotives de fret au chemin de fer ukrainien livré par le gérant ferroviaire Alstom. Il est important de préciser que ce n'est pas un accord officiel, mais une lettre d'intention, c'est-à-dire une formalisation des négociations en cours qui pourraient aboutir dans plusieurs années. L'Élysée a affirmé que la déclaration d'intention se projette volontairement sur un horizon d'une dizaine d'années avec des projets d'acquisition échelonnés dans le temps.
Mais est-ce que la France, elle a les moyens de financer autant d'armements ?
C'est une question que beaucoup se posent. La France aurait pu envisager d'acheter de l'armement français au bénéfice de l'Ukraine, mais elle n'a pas dans l'immédiat les fonds nécessaires, selon le journal Le Monde. Dans le projet de finances au Parlement, seuls 120 millions d'euros sont proposés pour l'aide à l'Ukraine, civile et militaire, dont 50 millions pour l'aide au développement financée par le ministère de l'Économie et des Finances, 20 millions pour les dons d'urgence provenant du ministère des Affaires étrangères et 58 millions au soutien aux pays tiers financés par le ministère des Armées.
Volodymyr Zelensky est venu en France aujourd'hui, mais il fait une tournée européenne, c'est bien ça ?
Oui, cette visite s'inscrit dans une tournée européenne plus large. Depuis dimanche, Volodymyr Zelensky parcourt plusieurs capitales afin de renforcer le soutien militaire, politique et financier de ses alliés. Selon la Commission européenne, l'Ukraine aurait besoin de 70 milliards d'euros l'an prochain pour financer sa guerre contre Moscou. La fin du soutien militaire américain à Kiev, décrétée par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche, met les Européens sous pression. Cette tournée intervient alors que l'Ukraine subit une nouvelle vague de frappes russes sur ses infrastructures énergétiques. Le président est d'abord passé par la Grèce, où il a conclu un accord énergétique. Athènes va fournir du gaz naturel à Kiev jusqu'en mars prochain. Après Paris, Zelensky poursuivra sa tournée demain à Madrid. Son but, solliciter davantage de soutien militaire et politique. Sur le front, l'armée russe acquiert du terrain dans l'est du pays face à des forces ukrainiennes en souffrance et à un manque de soldats.
Et dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a attaqué la ville de Balaklia, faisant 3 morts et une dizaine de blessés. 2 personnes ont aussi perdu la vie à Nikopol, dans le sud-est du pays. Un deuil de plus pour la famille Kessassi, un nom de plus sur la liste des narcomicides à Marseille. Jeudi dernier, Mehdi Kessassi a été assassiné en plein jour dans les rues de Marseille. Le jeune de 20 ans était dans une voiture lorsqu'il a été visé par une série de coups de feu. Il était le petit frère d'Amine Kessassi. Connu pour son combat contre le narco-banditisme, Amine est écologiste marseillais de 22 ans. En 2020, son grand frère est retrouvé carbonisé dans une voiture près de Marseille. Amine devient alors le militant anti-narcomicide numéro 1 dans les médias. Aujourd'hui, le meurtre de son petit frère est vu comme un acte d'intimidation des mafias. Malgré des enquêtes, les deux tueurs à moto n'ont toujours pas été retrouvés. Peut-être que vous faites partie de ces 1,2 million de salariés qui utilisent PageEmploi. Et si oui, alors vous avez été victime d'un vol de données. L'URSSAF l'a annoncé aujourd'hui, la cyberattaque a eu lieu vendredi. Voici les données qui ont pu être extraites: nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, numéro de sécurité sociale, nom de l'établissement bancaire, numéro PageEmploi et numéro d'agrément. Pas d'inquiétude en ce qui concerne votre IBAN, téléphone, mail et mot de passe, ils ne sont pas concernés. Pour rappel, PageEmploi est un service de l'URSSAF qui s'adresse à celles et ceux souhaitant faire garder leur enfant par une personne agréée. Aujourd'hui, l'URSSAF affirme que chaque victime sera prévenue et vous conseille de faire attention à tout courriel ou SMS frauduleux. Depuis le jeudi 29 octobre, le hall d'accueil de l'espace social commun IF à Rennes est occupé par une soixantaine de personnes. Sans hébergement, ces exilés ont été évacués du campement de Morpa sur ordre de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Elles y survivaient depuis avril 2025. Je suis allé à leur rencontre avec Estelle.
J'ai regretté de choisir de venir ici. C'est pas la fraternité, comment dire ici. Il n'y a pas d'aide ni rien.
Tariq est arrivé d'Algérie il y a 3 ans avec sa femme et leurs 2 enfants. Cet été, toute la famille a vécu sur le campement improvisé de Morpa.
Pour les arbres, pas de lumière, l'eau fraîche pour les petits et tout. Ils ont même ramené les poux dans ses cheveux. C'est pour ça que je ne peux pas rester là-bas. Il n'y a même pas une place propre pour jouer et tout.
Siamir Assigle, représentant du collectif des immigrés abandonnés et des mineurs isolés de Rennes, fait lui aussi partie des personnes expulsées du parc.
On ne sait pas comment on va s'en sortir. Là, on est dans les flous. Ils ne nous ont pas même rassurés.
Vendredi 29 octobre, plusieurs associations étaient mobilisées à Simone If. Pour Yann Mensi, bénévole chez Utopia 56, la raison de l'opération ne fait aucun doute.
Tout ce qui se passe là, c'est la suite du campement qui a duré pendant des mois. La mairie, le département, la préfecture, tout le monde s'en est lavé les mains. Ce qu'on demande, c'est des solutions pérennes.
Une occupation pacifique qui a conduit la mairie à fermer le bâtiment au public. Décision incompréhensible pour les associations qui dénoncent une coupure avec les travailleurs sociaux et une mise en tension inutile. Hélène Gianetto, co-déléguée de Solidaire 35, parle même d'une division inquiétante.
Rien aujourd'hui n'obligeait la fermeture de l'espace social commun de Simone If. Ça crée un flou aussi, ça oppose les personnes les plus vulnérables entre elles.
Anne-Françoise Courteil, vice-présidente chargée de la protection de l'enfance, s'est rendue à Simone If pour entendre leurs demandes.
Nous avons bien entendu réitéré notre demande auprès des services de l'État pour procéder au relogement des personnes. Cette situation ne peut pas durer dans un lieu qui n'est pas adéquat et qui peut présenter à terme des risques de cohabitation, mais aussi d'hygiène et de sécurité.
Les collectifs demandent une rencontre tripartite. L'État, le conseil départemental et la mairie de Rennes. L'objectif, créer une cellule dédiée à la situation des exilés. La mairie souhaite éviter les démarches parallèles, mais pour l'instant, aucune solution concrète n'a été proposée. Du côté des personnes évacuées, le sentiment d'abandon grandit, comme le confie à nouveau Siamir Assigle.
Ce qui est sûr et certain, dès qu'ils ne trouveront pas des solutions durables, ils nous trouveront toujours dans leur chemin.
Face à cette situation, le président du conseil départemental a informé le préfet du dépôt d'un mémoire en référé devant le tribunal administratif de Rennes, enregistré le 13 novembre. Cette démarche fait suite à des manquements aux règles de sécurité constatées par un commissaire de justice et à l'atteinte de la continuité des missions sociales exercées dans ce lieu, essentiel pour de nombreux habitants et habitantes du quartier de Maurepas. Et vous l'aviez peut-être remarqué, depuis presque un mois, le commissariat de Villejean avait fermé ses portes, faute d'effectifs. Vendredi, l'établissement a rouvert. Cependant, les réactions politiques étaient déjà tombées. Pour Claudia Rouault, députée PS, la fermeture du commissariat de Villejean revenait à abandonner un quartier déjà sous tension. Elle annonce aussi avoir demandé des renforts policiers au ministre de l'Intérieur, Laurent Nounès. Julien Masson, tête de liste du RN à Rennes, accuse quant à lui la gauche et l'État de reculer face à l'insécurité. Bridor lance une expansion du territoire en Normandie. L'entreprise rennaise de viennoiserie surgelée a récemment lancé sa production à Falaise dans le 14. Les chiffres, un investissement de 100 millions d'euros, 70 000 croissants à l'heure et la création de 150 emplois. Mais à peine installée, l'entreprise rennaise voit déjà plus gros. Bridor compte injecter 65 millions d'euros supplémentaires dans la création de deux nouvelles lignes de production. Une chance pour la candidate à la mairie de Falaise, Clara Dawael, puisque cet investissement pourrait créer 208 emplois.
70 000 croissants à l'heure.
Ça fait beaucoup de petits déjeuners.
Merci Lafken pour ton flash.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Estelle au micro pour l'interview ce soir.
En effet, du 1er au 30 novembre, le mois du doc s'installe partout en Ille-et-Vilaine avec plus de 65 projections, rencontres autour du cinéma documentaire contemporain. Pour en parler, nous recevons Agnès Frémont, coiffée d'un chignon de danseuse, programmatrice du mois de doc, qui va nous présenter la programmation et les temps forts de cette édition 2025. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter c'est quoi le mois du doc pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors, le mois du doc, on appelle ça mois du doc, mais c'est le mois du film documentaire. C'est un événement national pour faire découvrir le genre documentaire qu'on connaît un peu moins, ou en tout cas qui est un peu moins visible. Et Comptoir du Doc, où je travaille, on coordonne donc cet événement national sur le département Ille-et-Vilaine. Et c'est un événement itinérant. Donc on sort de la ville de Rennes aussi et on a 40 communes partenaires.
Et du coup, pourquoi choisir un format itinérant ? Enfin, pourquoi cette diversité géographique, puisqu'on peut retrouver des documentaires aussi bien dans des cinémas associatifs que aussi dans des médiathèques ?
Oui, parce qu'en fait, le mois du doc, toute structure culturelle peut participer au mois du doc si elle programme, si elle fait une projection rencontre, donc une projection d'un film documentaire et une rencontre avec un cinéaste ou une cinéaste ou un membre de l'équipe du film ou une association en lien avec la thématique du film. Donc voilà, on répertorie toutes ces séances. Voilà.
Et donc, au cours de ce mois-là, on va pouvoir voir plusieurs thématiques dans les documentaires, mais il y a surtout une thématique nationale qui est métamorphose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie ?
Oui, alors c'est une thématique nationale qu'on peut suivre ou pas. Nous, on l'a suivi pour la journée d'ouverture. On travaille toujours avec le Musée de Bretagne qui nous offre un week-end d'ouverture au Champ Libre. Et là, on a proposé deux films autour de cette thématique métamorphose avec un S, donc c'est très très large. Et nous, on l'a prise avec la sélection de nos films, on a 12 films en sélection. Et c'était plutôt sur l'émancipation individuelle et collective, et là sur autour de la fête, autour voilà. Mais c'est très large, la métamorphose. On peut parler du vivant, on peut parler des humains, on peut parler du changement, voilà, d'un début, d'une fin, d'une évolution. Donc c'est très large, comme ça permet aussi de montrer plein de films très divers.
Oui, en effet. Et aussi, parce que là, vous nous parliez de la journée d'ouverture qui a eu lieu du coup le 2 novembre au Champ Libre. Donc, cette journée d'ouverture, elle a été en lien aussi avec l'exposition Carnaval qui a lieu en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien entre Carnaval, la sélection des films qui ont leur propre thème, mais aussi du coup le thème national Métamorphose, parce que ça mélange plein de choses différentes?
Alors oui, en fait on a un partenariat avec le Musée de Bretagne et on s'est dit que c'était intéressant, ça résonnait entre la thématique nationale et l'exposition Carnaval qui malheureusement s'est arrêtée le 16 novembre, mais alors il y a peut-être une prolongation, je sais pas. Peut-être qu'elle a eu du succès. Et du coup, on s'est dit, on avait des films qui résonnaient autour de la fête collective. Et notamment un film qui s'appelle Pédale rurale. On a fait une petite tournée en début novembre sur la première Gay Pride en milieu rural. En tout cas, c'est l'histoire de cette première Gay Pride en Dordogne. Voilà. Donc ça résonnait aussi autour du thème, autour de la fête. C'est quelque chose de positif aussi.
En effet, Pédale rurale a été réalisé par Antoine Vasquez, du coup. Et donc, il y a aussi eu un autre film, enfin documentaire, pendant cette journée-là, qui est de Festa Major, de Jean-Baptiste Alazard. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, Festa Major, oui, c'est un film sur une fête votive qui a lieu dans les Pyrénées-Orientales. Une fête qui dure 5 jours. Donc 5 jours et 5 nuits, où les gens dansent, chantent, à la fois peuvent chanter, et à la fois il y a de la musique contemporaine et de la musique traditionnelle. Et c'est 5 jours d'ivresse aussi, où les gens se lâchent prise. Et voilà, ça montre l'intérêt aussi de pouvoir... avoir le lien, enfin autour du lien en tout cas, de pouvoir s'exprimer et se lâcher. Et du coup, ça résonnait aussi avec le thème métamorphose. Voilà. Il y a eu une seule séance de ce film, malheureusement. Voilà, c'était une séance unique. Mais j'espère qu'il y aura d'autres projections de ce film-là dans l'année ou l'année prochaine.
En vrai, on le souhaite tous qu'il soit diffusé autre part. Et donc, il a été diffusé pendant la journée d'ouverture. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un bilan de cette journée Enfin, vous, en tant que comptoir du doc?
Oui, nous, ça nous permet de lancer le mois du doc, qui est un événement du coup itinérant. Donc, on part aussi de la ville de Rennes, et il y a beaucoup, beaucoup de projections rurales, dans le milieu rural, dans des petites communes. Et du coup, c'est le lancement. Et ça permet aussi à des films comme Festa Major, qui a eu une seule séance, ou Pédale rurale, qui faisait une tournée régionale après, de lancer. Et c'est une belle salle. C'est des très bonnes conditions pour voir des films. Donc du coup, à chaque fois, il y a du monde et ce sont des séances gratuites. On va dire que le principe du mois du doc, c'est rendre accessible aussi la projection des films. Et c'est financé par les collectivités. Donc ce sont des séances gratuites pour la population, pour les habitants.
Oui, oui. Et donc aussi, il y a eu 4 films qui sont proposés du coup en tournée régionale. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces films-là et expliquer qu'est-ce qui les a distingués, pourquoi vous les avez choisis eux en particulier et pas d'autres?
Alors en tout, on en a 12,
oui.
Mais il n'y en a plus que... Enfin, là, on est à mi-parcours du mois du doc. Du coup, il y a déjà des films qu'on ne peut plus voir malheureusement, parce qu'il y a eu des tournées en début de mois. En fait, à l'association Comptoir du Doc, on a des adhérents, on a environ 120 adhérents. Donc en fait, toute personne peut s'inscrire et adhérer à l'association et participer au groupe de programmation pour voir les films et les sélectionner. Moi, mon travail de programmatrice, c'est de pré-sélectionner les films, de voir beaucoup, beaucoup de films en début d'année, et ensuite de soumettre mes choix à un groupe d'adhérents composé d'une 15aine de personnes. On se réunit une fois par semaine de mars à mai, pendant 3 mois, et on vote collectivement. Donc moi, j'ai une voix autant que les autres, donc c'est vraiment un choix collectif. Ce sont les premiers spectateurs, on est les premiers spectateurs du film et on se dit bah tiens, on a envie de les partager au public. Et ensuite les structures partenaires choisissent parmi ces 12 films en juin et organisent les projections. Et nous on les aide dans la logistique. On fait venir les invités, on achète les billets de train, on organise le logement, enfin bon, toute cette logistique, on s'en occupe, On négocie les droits de diffusion aussi, parce que ça coûte aussi ça coûte des sous de projeter un film. Voilà, c'est normal. Donc c'est un forfait. Et voilà, toute structure culturelle peut participer. Et c'est essentiellement des médiathèques qui participent. Parce que le Moyeu Doc est né en l'année 2000. Donc c'est la 26e édition. Et ça, c'est parti des médiathèques pour faire sortir les DVD qui ne sortaient pas forcément beaucoup. Et du coup, organiser une projection au sein de la médiathèque. Voilà.
Et du coup, oui, enfin, comme là, vous venez de le dire, donc c'est une tournée itinérante. Du coup, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu, dont certaines associations, qui est Cinécran, Comptoir du Doc, vous-même, Douala Gad Brez, j'espère que je l'ai bien prononcé, désolée si j'ai écorché le nom, et aussi T-Film. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces assos, genre leur rôle même dans...
En fait, on fait le même travail. Nous, on le fait en Lille-et-Vilaine. T-Film, c'est à Mélionnec. Douala Gad Brez, c'est à Douarnenez, c'est pas facile à dire. Et Cinécran à Vannes. Et eux, en fait, ce sont des associations qui diffusent des films documentaires. Nous, on fait que du documentaire, mais les autres assos projettent aussi des films de fiction. Donc, font un travail de diffusion à l'année et aussi coordonnent le Mois du Doc dans leur département. Voilà. Okay. Mais on a des films en commun, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble et on organise des tournées régionales. Par exemple, Pédale Rurale, donc Antoine Vasquez, le réalisateur qui était là en début de mois, il a fait les 4 départements, donc il a fait une grande tournée.
Et du coup, on peut retrouver aussi quel autre film que vous avez en commun ?
Oui, alors on a « Dans la vie, je me suis perdue » de Françoise Boire et Régis Blanchard, qui passe toujours d'ailleurs, qui est encore en tournée dans les 15 prochains jours sur l'Ille-et-Vilaine.
Et de quoi parle ce film ?
Alors ce film parle de jeunes qui sont en CER, en centre éducatif renforcé, donc avant, afin d'éviter les séjours en prison. Donc ce sont des séjours de rupture de 6 mois et on suit Kevin qui a 17 ans et voilà, on le suit durant ces 6 mois. Des 6 mois difficiles où du coup il n'a pas de lien forcément avec sa famille, où il souffre aussi d'addiction à la drogue, donc il doit aussi essayer de s'en sortir. Et voilà, les éducateurs, les réalisateurs, c'est un couple de réalisateurs et qui travaillent ensemble et qui font des films ensemble. Et du coup, se sont attachés sur Kevin, mais aussi sur tout le travail social des salariés de ce centre-là, qui se trouve dans le Morbihan.
Ok, d'accord. Donc c'est aussi des documentaires qui se basent sur du local.
Oui, il y a quelques films locaux et notamment les films en tournée régionale. Il y a aussi un film qui s'appelle Demain au boulot qui va passer d'ailleurs aussi en Ille-et-Vilaine à partir de mardi et la semaine prochaine en tournée. Demain au boulot de Lisa Le Tonker. Donc c'est un film sur les ouvrières, les sardinières à Douarnenez, voilà, et sur leurs conditions de travail. Ce sont essentiellement des femmes qui travaillent dans les usines de confection des boîtes de sardines et beaucoup de femmes immigrées aussi. Et du coup, voilà, ça parle de leur quotidien qui n'est pas simple et des conditions de travail qui sont dégradées aussi.
Et aussi, je crois qu'on peut retrouver La Terre des Vertus.
Et La Terre des Vertus, oui, exactement. Donc ce film-là parle... donc c'est un film de Vincent Lapize qui a fait un film qui a été connu pour son premier film qui s'appelle Le Dernier Continent, qui s'est passé à la ZAD. Le combat pour contre l'aéroport, le nouvel aéroport de Nantes. Et là, ça se passe à Aubervilliers. Donc là, c'est la JAD, les jardins à défendre, les jardins ouvriers à Aubervilliers, en fait, qui ont été mangés par le fait de construire une piscine olympique pour les JO. Voilà, donc c'était un projet très très rapide et qui a mangé sur les terrains des jardins ouvriers et qui lutte encore aujourd'hui pour leur maintien. Mm-hmm. Un très beau film aussi.
J'en doute pas une seconde. Mais du coup, déjà avec ces 4 films, on peut voir que Métamorphose a été... à un axe particulier dans chaque film, mais il y a aussi d'autres films qui vont porter sur des enjeux sociaux forts, comme Étudiante en terrain miné ou Adoption internationale, un scandale planétaire. Quelle place accordez-vous aussi aux documentaires engagés dans cette sélection ?
On essaye... moi, je trouve que toute forme de création, enfin, en tout cas, la création, c'est politique. Donc, du coup, l'engagement, déjà, des réalisateurs et réalisatrices au long cours, souvent, passe beaucoup, beaucoup de temps... pour travailler leur sujet ou en tout cas connaître, même si souvent on filme l'autre qui est différent de nous, donc on essaie de comprendre, passer du temps. Il y a une relation de confiance qui s'établit entre les personnages et le cinéaste ou la cinéaste. Et du coup, je trouve que les films sont politiques, militants. Alors après, ça dépend de leur forme aussi. Les formes sont différentes. Par exemple, dans La Terre des Vertus, le film parle de lutte, tout comme Pédale Rurale aussi, qui parle de lutte aussi contre les discriminations. Hein. Mais il y a beaucoup de poésie. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses. C'est assez lumineux. C'est aussi de parler du lien, comme on disait, du lien entre les humains et comment on fait lien ensemble. Et souvent, de sortir de l'isolement, comme Pédale Rurale, où le personnage, vit en campagne, un peu stigmatisé, parce qu'il est différent des autres, et puis petit à petit, il se rend compte qu'il y a des gens aussi qui sont comme lui, et petit à petit, ils se forment en groupe et réussissent à réaliser leur première Gay Pride, et puis ça continue, ça fait 3 ans, je crois, c'est la 3e année, du côté à Thiviers, en Dordogne. Au terme de militant, oui, c'est politique, ouais. Déjà de faire des films.
Je tiens juste à faire une petite aparté. Les étudiantes en terrain miné va être diffusée à la salle du tambour le 25 novembre. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et aussi, je voulais vous parler de récits aussi plutôt intimes qu'on peut aussi retrouver dans d'autres documentaires comme Al Janat ou Les Esprits Libres. Comment ces histoires personnelles s'intègrent dans la réflexion globale du festival ?
On va dire que les documentaires que l'on montre, ce sont des documentaires d'auteur ou de création. On est vraiment en dehors du reportage, où il y a un point de vue qui est assumé, donc forcément un point de vue subjectif qui part du regard du cinéaste ou de la cinéaste. Et souvent, pour découvrir le monde, on part de soi et puis on va vers les autres. Et du coup, là, souvent, il y a le récit de l'intime pour parler de choses assez universelles. Al Janat, c'en est un exemple aussi. La réalisatrice qui vit en France est partie de son pays et revient à la mort de son oncle. Et il y a, ça la met dans une situation compliquée et qu'à la fois, il y a aussi des choses qui se jouent dans ce film sur la tradition et sur le colonialisme aussi, c'est-à-dire ce qu'a amené la France et l'appât du gain, plein de choses. Et ce film est assez, assez riche. Voilà. Il y a une séance à Champs-de-Py le 28 novembre avec le Ciné-Club de Champs-de-Py si vous voulez voir ce film qui est très beau. Et la réalisatrice sera là.
En plus, donc c'est une occasion de la rencontrer, aussi son point de vue sur sa propre création.
Oui.
Et aussi pour Les Esprits Libres, il va passer à Villejean le 25 novembre à 19h et celui-ci porte sur un centre de patients atteints d'Alzheimer. Voilà.
Tout à fait.
Et pour terminer, est-ce que pour cette fin de mois, quel documentaire vous nous conseillez absolument à ne pas louper ? Le documentaire du mois ?
Eh ben moi je les aime tous parce que je les ai choisis, mais je pense que Les Esprits Libres qui passent à la BU Santé le mardi 25 novembre, donc la semaine prochaine à 19h, je pense que si les questions du soin, de l'accompagnement vous intéressent, je pense que, et c'est pareil, c'est un film très, très lumineux aussi, pas plombant. Et où en fait les résidents qui souffrent d'Alzheimer, qui vivent en EHPAD, font l'expérience d'une résidence de théâtre. Et du coup, on se rend compte qu'à travers l'art, la création, les gens vont mieux et prennent moins de médicaments. Ou en tout cas, voilà, c'est une réalité. Et c'est comment on peut prendre ça en compte, malgré les conditions aujourd'hui de la santé en France. On sait qu'on manque de moyens. On est convaincus aussi faire autrement. Il y a des alternatives qui existent et ce film en est l'exemple. Et il y a un film aussi, qui est en tournée, qui va commencer sa tournée mercredi, qui est vraiment un très très beau film. Là, on parle vraiment de cinéma, ça s'appelle Le Retour du projectionniste de Orkan Agazadeh, qui est un réalisateur d'Azerbaïdjan. Voilà. Et il sera accompagné par une critique de cinéma qui est iranienne, qui s'appelle Shiva Fouladi. Et le film passe un peu loin de Rennes, mais à Langouette ou à Landugean ou à Aidé-Bazouge, au théâtre de Poche. Peut-être que vous, que vous connaissez, qui est pas très très loin de Rennes. En fait, c'est un film qui frôle la fiction et le documentaire. et un très très beau film sur le cinéma comme vecteur de lien aussi, où un réparateur de télévision dans un village en Azerbaïdjan, dans les montagnes un peu reculées, veut refaire une projection de film pour les habitants, comme ils avaient l'habitude de faire quand il était petit. Et lui, il a découvert des films indiens comme ça. Et en fait, tout l'enjeu du film, c'est ce qu'il va réussir à réaliser, voilà, à faire cette projection. C'est un très très beau film.
Donc si vous voulez savoir s'il va réussir ou pas, n'hésitez pas à aller le voir. Et aussi pour les retardataires, si vous avez loupé quelques séances ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir la programmation qui est disponible du coup sur le site Le Mois du Doc. Et aussi peut-être ce seront des films qu'on pourra retrouver dans certains festivals ou même dans nos salles de cinéma dans les mois à venir.
Oui, c'est. Et juste, oui, Pédale Rurale, par exemple, il a fini sa tournée avec nous début novembre, mais il repasse pour le festival Regard le 12 décembre au FRAC. Donc n'hésitez pas à aller le voir.
Voilà, donc foncez tous. Merci Agnès.
Merci à vous.
6 heures avant minuit.
Je fais une petite aparté pour un instant auto-promo. Le mardi 25 novembre, SILAB organise un atelier de création radiophonique en mixité choisie, donc femmes et minorités de genre. Ça se passe au Diapason sur le campus Beaulieu de l'Université de Rennes. C'est gratuit et ce sera autour de la thématique femmes et sciences. Les créations sonores proposées par les participantes seront diffusées ensuite le 8 mars 2026 dans le cadre de la journée de lutte pour les droits des femmes. Pour s'inscrire, il vous suffit d'envoyer un mail à commission-6antisexisme@proton.me. Je le rappelle, cet atelier est réservé aux femmes et minorités de genre. Est-ce que tu peux vérifier le répondeur, Lafkène, s'il te plaît ?
Oui, de suite.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
SILAB, la radio sauvage.
Et je crois qu'il y a un message.
Yes,
si
écoutons-le.
Coucou l'équipe de 6 heures avant minuit, c'est Benoît de Saint-Malo, ben, fidèle auditeur de SILAB, aussi bénévole à la radio et peut-être futur technicien à la radio pour 6 heures avant minuit. Donc je me suis dit, je vais appeler la messagerie du répondeur, donc je vais laisser un message pour l'émission, donc pour remercier à Timothée à la technique d'avoir fait la formation il y a à peu près 2 semaines. Franchement, c'était super. J'aurais préféré que ça dure un peu plus de 3 heures, mais bon, je me suis dit 3 heures, ça va encore. Donc, on peut pas avoir tout le temps, mais bon, je pense que je passerai peut-être plus tard vous voir. Mais bon, d'être derrière la vitre en train de gérer les boutons pour ouvrir les micros et fermer les micros. Je suis dans le secteur de Rennes, là, donc je viens de voir une info concert dans 2 semaines, alors si je ne dis pas des bêtises, il s'agit du groupe Burn on the Wire, donc c'est un groupe qui est géré par que des femmes, je crois que c'est la leaduse de ce groupe-là, c'est Rosemary Sunday, donc nom un peu connu, hein, parce qu'elle faisait un groupe qui s'appelait More IT, donc avec des reprises comme Age of the Silence de Depeche Mode ou d'autres titres. Donc voilà. Et elle sera en concert le 23 novembre prochain, donc dimanche 23, au Grand 8 à Rennes. Donc c'est un concert qui commence à 16h. Et que en plus c'est un concert qui est totalement gratuit, donc vraiment si vous voulez voir Rosemary Sunday ou toutes les membres du groupe, et ben allez-y, parce que franchement ils ont fait une reprise du titre Small Town Boy du groupe Ponsky Beat en 1984. Donc voilà, donc franchement à écouter, parce que aussi il y a eu le chœur de Radio France qui ont participé à cet album, et puis bien sûr un titre que j'ai entendu pas à l'antenne de SILA mais à l'antenne de FIP. Donc voilà, si vous aimez vraiment de découvrir Bob and the Wire au Grand 8, et ben c'est ce dimanche 23 novembre à 16h. Et en plus, c'est gratuit. Allez, bon courage à tout le monde, et puis ben plein de gros bisous, et puis, je vous embrasse. Allez, ciao.
Bisous Benoît, ton message a fait très plaisir.
Merci
à Timothée.
Merci Benoît pour la petite dédicace, j'étais à côté dans le bureau, du coup j'ai appliqué dans la régie.
Merci Benoît. Faites comme Benoît, laissez-nous un message vocal, je vous rappelle le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Merci Eva et Maud pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h sur Syllabe,
la radio sauvage.